Éluard meurt en 1952 d'une crise cardiaque. C'est la première fois que l'on voit Picasso pleurer en public. À ce sujet, Claude Roy écrit « Le lendemain des obsèques, il y a quelques amis qui parlent à mi-voix dans la pièce d'à côté. » Picasso sort des feuilles de papier et se met à dessiner. Il entreprend un thème qu'il va reprendre en une suite de portraits de son ami. Nous restons silencieux. On entend le frottement du crayon et du fusain sur le papier canson. « Fermez la fenêtre, dit Picasso, il fait presque froid. » Je n'ai jamais connu Picasso frileux. Picasso était réputé dur en amour autant qu'en amitié. Mais dans sa relation à Éluard, il a su montrer un autre visage, celui d'un homme qui pleure en public la perte de son ami. Le changement, opéré en Picasso par sa rencontre avec Éluard, se dévoile aussi dans cette ouverture à sa propre vulnérabilité. L'homme de feu, habitué à passer l'hiver en t-shirt, découvre qu'il peut avoir froid. Le créateur débordant d'idées, de désirs, découvre le vide laissé par la mort de son ami. Telle est la véritable force de la rencontre, une puissance de changement. Camus, rencontrant Maria Cazares, a vu s'inverser en lui le rapport à l'approbation et la détestation. Picasso, rencontrant Éluard, s'est autorisé à redevenir simplement Pablo. Je songe, en écrivant ces lignes, à l'un de mes amis qui a changé de vie. Auparavant, directeur des ressources humaines d'une grande entreprise, on lui a diagnostiqué un cancer du larynx. Mais plus que la maladie peut-être, c'est sa rencontre avec son médecin qui l'a marqué. Il a réalisé que son métier n'avait plus de sens pour lui. Il s'en doutait déjà, mais au contact de ce médecin qu'il a été amené à l'admettre et en tirer des conséquences. Le fait de voir régulièrement un homme de son âge consacrer des journées et son intelligence à une noble mission l'a amené à reconsidérer sa propre situation. Le métier de DRH peut être noble, mais il l'exerçait dans de mauvaises conditions. La direction l'obligeait à concevoir des salaires comme un coût et les emplois comme une variable d'ajustement. Avait-il fait de longues et prestigieuses études pour en arriver là ? Cette idée lui devint insupportable. La maladie et la peur de mourir ont sans doute contribué à sa prise de conscience. Mais tous les malades ne changent pas. Nombreux, une fois guéris, reprennent leur vie d'avant exactement là où ils l'avaient laissée. Sans la rencontre de ce médecin, aurait-il retrouvé son poste de DRH ? Il m'a raconté combien il était marqué par leur discussion, par la qualité de présence du cancérologue lorsqu'il lui rendait visite, même quelques minutes dans sa chambre à l'hôpital, par la délicatesse avec laquelle il a su lui annoncer les mauvaises nouvelles et les bonnes aussi. Bref, il a fait l'expérience d'une vraie rencontre. Son admiration pour ce médecin lui a donné envie de devenir meilleur. Une singularité, affirme Nietzsche, est un pont tendu vers une autre singularité. Une fois en rémission, la décision s'est imposée à lui, changer de voie, de métier, de vie. Il lui a semblé préférable d'employer ses journées à instruire les autres plutôt qu'à les licencier. Il a passé le CAPES et est devenu professeur de lettres. Les transformations silencieuses. Tous les changements ne sont toutefois pas si manifestes. Tous ne relèvent pas de bouleversements, de révélations, de conversions ou de métamorphoses. Certains s'apparentent à ce que François Julien appelle des transformations silencieuses. Le changement se produit alors de manière quasi imperceptible, inconsciente parfois, du moins au début, par sédimentation successive, jusqu'au jour où soudainement se mesure le chemin parcouru. La lecture de L'étranger de Camus ne m'a pas changé d'un coup, mais je sais aujourd'hui, avec le recul, qu'elle est à l'origine d'un processus de transformation silencieuse, nourri par la suite d'autres rencontres, d'autres expériences. Parce que j'ai lu L'étranger lorsque j'avais 15 ans, et relu plusieurs fois depuis, découvert également Noce et L'été, ébloui par l'écriture de Camus est ce soleil d'Algérie dont chaque page rayonne parce que j'ai trouvé dans ces courts textes un accès au pays d'origine de ma mère dont j'avais finalement peu entendu parler. Je n'ai aujourd'hui plus le même rapport au soleil, à l'été, ni même, je crois, à l'adversité. Je crois pouvoir dire que les rayons du soleil rencontrent ma peau, mon front, d'une manière différente depuis que j'ai rencontré ces chefs-d'œuvre de Camus. Depuis notamment que j'ai lu ces quelques lignes de noces. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et des couleurs qui tremblent au bord des cils. Et un peu plus loin, il me faut être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celle-ci dans celle-là. Sur le rivage, c'est la chute dans le sable, abandonné au monde, rentré dans ma pesanteur de chair et d'eau, abruti de soleil, avec, de loin en loin, un regard pour mes bras où les flaques de peau sèche, découvrent avec le glissement de l'eau le duvet blond de la poussière du sel. Difficile de savoir pourquoi l'écriture de Camus m'a touché à ce point. Peut-être me parlait-elle en effet du pays de ma mère. Peut-être étais-je trop intellectuel, un enfant de la ville qui ignorait trop son corps, ses sens. Une chose est sûre, il a fallu que je lise Camus pour voir dans le soleil autre chose qu'un fait météorologique. Avant de rencontrer Camus, le soleil était ce dont il fallait se protéger avec une casquette et de l'écran total. Après, je trouverai en lui un allié pour les temps difficiles. J'apprendrai à voir le monde dans sa lumière qui ne ment pas. Bref, j'ai rencontré le soleil grâce à Camus. J'ai découvert dans ses livres ce que j'expérimenterai plus tard et qui deviendra presque une vie, une éthique de vie. S'efforcer de rester solaire jusque dans les mauvaises passes, malgré les déconvenues ou les blessures. Aimer la vie, quand bien même elle n'a plus aucun sens. J'écrirai d'ailleurs un roman, La Joie, pour rendre compte des changements opérés par moi, sur moi, par la lecture de l'étranger. Parce que j'ai accepté l'invitation à voyager dans le royaume proposée par Emmanuel Carrère, je n'entre plus dans une église de la même façon, et lorsque le soleil transperce les vitraux, je ne lève plus les yeux vers eux de la même manière. Je n'écoute plus de la même oreille les croyants qui me parlent de leur foi. Avant, j'y voyais un symptôme de cette régression infantile diagnostiquée par Freud. J'y entendais surtout le besoin d'être rassuré. Depuis que j'ai lu Le Royaume, je me demande comment je découvre, comment la bonne nouvelle, je me demande comment la découverte de la bonne nouvelle de l'Évangile les a traversés, a transfiguré leur existence. Je les regardais avec moquerie, je les observe désormais avec curiosité, peut-être même avec une pointe d'envie. Le monde de Camus est un monde sans Dieu. Le royaume de Carrère est plein de mystères de Jésus. Chacun à leur manière, tous deux m'ont nourri, transformé, silencieusement d'abord, puis de plus en plus bruyamment, jusqu'à ne plus me laisser d'autre choix que d'entendre l'évidence. Il y a en moi assez de place pour un mystique qui lève les yeux au ciel et un athée qui le referme. Les sourcils et les cheveux encore pleins de sel de la mer, pour mieux sentir la brûlure du soleil. Le désir de reconnaissance. La philosophie de Hegel nous aide à comprendre pourquoi la rencontre de l'autre a le pouvoir de nous changer. Dans sa dialectique du maître et de l'esclave, il oppose le maître à l'esclave d'une manière au premier abord surprenante. Même si le maître commande, il est d'après l'auteur de la phénoménologie de l'esprit, enfermé dans le cercle clos et narcissique de son autorité, de sa subjectivité. Ne rencontrant aucun autre maître, aucun alter ego, et ne travaillant pas, il ne peut obtenir de reconnaissance objective de sa valeur. Sans cette expérience de l'altérité, il ne peut savoir qui il est. À l'inverse, même s'il obéit au maître, l'esclave a l'occasion de rencontrer la nature à laquelle son travail le confronte, lequel lui permet de prendre conscience de lui-même en se reconnaissant dans ses œuvres, et des alter-ego qui travaillent avec lui, par lesquels il va pouvoir être reconnu. Pour Hegel, la liberté ne peut être qu'objective, prouvée objectivement par des actions soumises à l'approbation des autres. L'esclave est donc plus libre que le maître. Ce n'est bien sûr qu'une parabole, mais elle éclaire le statut décisif de la rencontre chez les étranges animaux que nous sommes. Pour progresser, il faut rencontrer un autre que soi. C'est tout le sens de la dialectique hegelienne. Une idée doit rencontrer une autre idée pour déployer toute sa puissance. Seul, sans antithèse, négation à laquelle se confronter, une thèse ne peut pas vraiment s'exprimer. Il en va de même des individus. Il faut se confronter à une autre conscience pour contrer sa différence, apprendre à se situer, connaître sa valeur et progresser. Il faut rencontrer l'autre pour espérer satisfaire ce qui est, selon Hegel, notre désir le plus profond, la reconnaissance. Sans confrontation à l'altérité, comment savoir où nous sommes, comment savoir qui nous sommes ? Et Dieu lui-même éprouve la même nécessité. Au début de l'histoire, au début du temps, écrit Hegel, dans ce grand récit métaphysique qu'est la phénoménologie de l'esprit, Dieu n'a qu'une vague idée de ce qu'il est. Toute entité divine qu'il soit, il est habité, écrit également Hegel, par l'esprit de l'inquiétude. Il veut savoir qui il est. Aussi va-t-il créer son autre, ce qui lui est le plus opposé, la nature, pour la placer face à lui et la rencontrer. Rien de plus opposé, en effet, à l'esprit que la matière. Cet acte fondateur, par lequel Hegel repense la création du monde, se comprend à la lumière du besoin d'altérité. En rencontrant la matière, en étant confronté à la nature, l'esprit va prendre la mesure de sa différence et comprendre qui il est. Il va progressivement se réaliser dans cette nature, s'objectiver en elle, la spiritualiser. Dans cette quête de l'esprit par lui-même, est le moteur de l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi l'histoire est caractérisée par un progrès. Avec les siècles, l'esprit progresse dans la conscience qu'il a de lui-même. Dieu aboutit à une meilleure connaissance de lui-même. Il est la liberté et peut se contempler dans le monde. Ce majestueux récit hegelien peut surprendre aujourd'hui à une époque où l'idée du progrès de l'histoire est moins évidente qu'elle ne l'était au XIXe siècle. Mais il nous intéresse pour ce qu'il dit de la mécanique même de la rencontre. Elle est au cœur métaphysique de toutes les réalisations, de tous les progrès. Même Dieu a besoin de rencontrer son autre. Il ne peut en être autrement pour les hommes. Sans aller vers ce qui n'est pas soi, impossible de savoir qui on est. Sans rencontrer l'autre, impossible de se rencontrer. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, écrit Pierre Reverdy avec des accents hegeliens. L'amour se prouve dans des actions, comme la belle rencontre s'évalue au changement qu'elle produit. Être hegelien permet d'entretenir une saine vigilance à l'égard des rencontres mauvaises ou toxiques. Quand la bonne rencontre me grandit, me rend meilleur ou m'ouvre au monde, la mauvaise me diminue, m'enfonce dans la dépendance ou m'isole. Si j'ai changé, mais négativement, c'est que l'autre n'a pas éveillé la puissance de la vie en moi, mais qu'il s'agit peut-être d'une personne toxique qui se joue de ma faiblesse, me rabaisse pour jouir de son petit pouvoir. Il y a tant d'autres choses à vivre, tant de beauté qui sommeillent en nous, attendent leur heure, l'occasion de se déployer, tant d'autres rencontres possibles pour contrer celles qui me nient. Le thérapeute qui nous permettra d'identifier les mécanismes de notre aliénation ou de notre dépendance, l'ami capable de nous soutenir, de nous redonner confiance, le partenaire grâce auquel nous allons nous réaliser professionnellement, l'amour qui nous révèle à nous-mêmes dignes d'être aimés. Qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, les belles rencontres se reconnaissent à leurs effets sur nous. On voudrait que ceux qu'on commence à aimer vous aient connu tel que vous étiez avant de les rencontrer pour qu'ils puissent apercevoir ce qu'ils ont fait de vous, écrit Camus dans ses carnets.